Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Des violences ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Depuis la mi-avril, les heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait près de 300 blessés, en grande majorité des Palestiniens. La répression des manifestations au Soudan, l'ONG Human Rights Watch dénonce le ciblage impitoyable et brutal des manifestants destinés à faire régner la peur. Nous écouterons Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud de l'Irak, bilan d'affrontements armés entre membres d'une même tribu. L'autre 8 mai 1945, cela fera dimanche 77 ans, les massacres de Sétif Guelma Kerata en Algérie. Nous y reviendrons avec le président de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki. Des heurts ont eu lieu ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, des violences entre des policiers israéliens et des Palestiniens. Au cours des dernières semaines, de violents heurts ont fait près de 300 blessés palestiniens dans et autour de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. La répression de la contestation au Soudan, contestation contre le coup d'État mené par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan en octobre dernier, l'ONU a recensé un millier d'arrestations, dont 148 enfants, ainsi qu'au moins 13 viols de manifestantes. Une répression vivement condamnée, notamment par l'ONG Human Rights Watch, qui dénonce le ciblage impitoyable et brutal des manifestants. Entretien avec Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique.
Notre nouveau rapport documente comment les forces de sécurité entreprennent une campagne de répression à travers des arrestations arbitraires, des appréhensions très violentes de manifestants, notamment des individus qui sont perçus comme étant des manifestants très actifs dans le mouvement populaire. Et ce qu'on documente dans ce rapport, c'est qu'au cours des derniers mois, on a non seulement des arrestations où les manifestants se font maltraités lors de l'arrestation. On a aussi documenté des cas de menaces de violence sexuelle, mais aussi de cas de violence sexuelle lors des arrestations, mais aussi des arrestations et des détentions qui sont arbitraires. Alors, il y a eu beaucoup de manifestants qui sont détenus de façon incommunicado, où ni leur famille, ni leurs avocats ont accès aux individus lors de leur détention. Et on a documenté comme deux agents des forces de sécurité en particulier, alors au niveau de la police et aussi au niveau d'un vieux service d'intelligence, en fait, qui avait perdu leur pouvoir d'arrestation lors de la transition, qui ont repris ce pouvoir d'arrestation qui leur a été retourné par les militaires depuis le coup, sont aussi en train d'utiliser en fait les prisons pour détenir les manifestants aussi. Donc, non seulement des violences physiques par les forces de sécurité, mais aussi des abus d'arrestation arbitraire, etc., et questions de procès équitable.
Et c'est pourquoi vous parlez de ciblage impitoyable et brutal des manifestants, les manifestants qui sont traqués aujourd'hui au Soudan.
Oui, je pense qu'il est important. Alors, on a depuis le coup d'État documenté toute forme d'instruments que les services de sécurité utilisent pour semer la peur dans le mouvement. Alors ici, ce rapport nouveau se focalise sur les arrestations arbitraires. On a déjà documenté l'utilisage de la force létale contre les manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestants qui ont été tués, notamment les enfants. Je pense qu'il est important aussi de souligner ce qu'on trouve dans notre rapport aussi, c'est que les enfants n'ont pas été protégés. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui manifestent aussi. Et on a aussi documenté des cas d'arrestations violentes, d'enfants qui ont été abusés sexuellement aussi lors de leur détention. Donc on parle vraiment d'une répression qui n'a aucune restreinte.
148 enfants qui ont été arrêtés selon un dernier bilan.
C'est l'information et de l'ONU, mais aussi il y a des comités d'avocats qui travaillent très dur depuis le coup d'État pour essayer de suivre les cas justement des manifestants qui sont détenus, qui passent beaucoup de temps d'aller à un centre détention à un autre, d'une autorité qui, en théorie, devrait avoir des informations sur où les individus sont détenus et qui les repoussent et leur donne pas l'information appropriée. Et une des préoccupations l'information qu'on a, c'est que les forces de sécurité utilisent l'état d'urgence qui a été établi suite au coup d'État par le dirigeant militaire, général Burhan, pour excuser, pour justifier le manque de procédures légales au cours de ces détentions.
Et vous appelez aujourd'hui la communauté internationale à faire davantage pression sur le pouvoir soudanais.
Absolument. On parle quand même d'une répression qui dure depuis 6 mois. Il y a eu, bien sûr, de la part de la communauté internationale, des communiqués de préoccupation et des actions importantes. Mais on n'a encore pas vraiment vu la pression qui sera essentielle, non seulement pour arrêter les abus, pour changer le comportement des services de sécurité. Et bien sûr, cette pression doit être mise au plus haut niveau. Notre nouveau rapport parle de certains agents et certaines unités des forces de sécurité qui sont impliquées en particulier dans ces abus-là. Mais on parle d'une campagne de répression qui est orchestrée au plus haut niveau. Donc il est absolument essentiel que des mesures significatives soient prises à ce niveau-là aussi. Et bien sûr, on parle aussi d'un soutien qui doit permettre aux mouvements populaires, aux voix qui refusent d'accepter le coup d'État, qui refusent d'accepter le pouvoir de plus en plus grand du pouvoir militaire. Je pense que c'est aussi important. Le plus de temps que cette situation dure, le plus de temps le pouvoir militaire a pour aussi remettre en place un système de contrôle à tous les niveaux de gouvernance importants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps pour permettre cette répression qui continue, il n'y a plus de temps de permettre un status quo qui est très préoccupant pour le futur du pays.
Parce qu'il y a une impunité aujourd'hui, selon vous, de la part des autorités militaires?
Absolument. On a, avant le coup d'État, on regardait déjà ce qui s'était passé sur tout ce qui est question d'enquête pour les abus du passé des forces de sécurité, notamment la répression qui avait déjà eu lieu en 2019 à la fin du régime d'Al-Bashir. On n'a pas vraiment vu des enquêtes très significatives. Il y a eu quelques cas, mais on parle quand même d'un contexte où les forces de sécurité ont toujours et continue de profiter d'un contexte d'impunité qui leur permette aussi de continuer cette répression. Et c'est pour ça que la pression internationale est importante, c'est pour ça que nous on demande pour des mesures immédiates, telles des sanctions ciblées contre les individus qui dirigent cette répression, qui ne doivent pas être perçues comme des mesures qui remplacent la justice qui doit avoir lieu, mais c'est quand même des mesures dans un contexte où on sait qu'au niveau domestique, on ne va pas avoir de justice crédible dans le contexte actuel. Il est important que la communauté internationale prenne quand même des mesures intermédiaires qui donnent un message important que l'impunité n'est pas acceptable.
Et ces sanctions ciblées, comment cela pourrait se traduire? Quel type de sanctions? Cela peut être notamment des sanctions financières?
Oui, absolument. Par rapport aux visas qui sont donnés, c'est aussi important, je pense, diplomatiquement, que la communauté internationale n'accepte pas de continuer à s'engager avec le pouvoir militaire d'une façon qui serait tout à fait normale. Et c'est pour ça aussi que ces sanctions ciblées sur le côté financier des individus derrière la répression, mais aussi sur leur capacité de continuer à être perçus comme des acteurs politiques légitimes sont très importants.
Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique. Une découverte macabre sur les côtes du centre-est de la Tunisie. Les corps de 24 candidats à l'exil morts noyés après le naufrage de leurs embarcations ont été retrouvés. Les naufrages remontent à la fin du mois d'avril. Du 22 au 30 avril, 4 embarcations parties des côtes de la région de Sfax sont chavirées au large de cette ville. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud de l'Irak, bilan d'affrontements armés entre membres d'une même tribu. Des affrontements provoqués par un contentieux autour de terres agricoles. C'est arrivé dans un village situé à 70 km au sud de la ville d'Amara. La guerre en Ukraine, Moscou affirme que son armée a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad. Cette annonce est intervenue hier au 70e jour de l'agression russe en Ukraine. l'Ukraine. Et le bombardement du théâtre de Marioupol a fait au moins 600 morts. C'est ce qu'indique Associated Press suite à une enquête. C'est le double du nombre de victimes évoquées jusqu'à présent. Le bombardement du 16 mars dernier est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre en Ukraine. L'ONG Amnesty International accuse une milice financée par le gouvernement en Libye de commettre des crimes et de graves violations des droits humains en toute impunité. Une milice dénommée Autorité de soutien à la stabilité, elle a été créée par décret gouvernemental en janvier 2021 et elle est dirigée par l'un des chefs les plus puissants de la capitale Tripoli. Alors que l'on va commémorer la victoire contre le nazisme dimanche 8 mai prochain, l'association mémorielle Les Oranges rappelle que c'est aussi l'anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie. Le président de l'association, Mohamed Kaki, évoquera cet autre 8 mai au Centre culturel algérien. Ce sera mercredi 11 mai prochain à 19h. Mohamed Kaki.
Il faut rappeler que les tirailleurs algériens ont participé activement contre le nazisme et ont été combattre aux côtés de l'armée française, justement au front, le Monte Cassino, et je rappelle tous les fronts importants où il y a eu des pertes énormes dans les troupes, et ils ont été très courageux et salués d'ailleurs par leurs camarades français à l'époque au front. Et dans le même temps, il y a eu effectivement à la fin, le 8 mai justement, pendant que tout le monde célébrait ce 8 mai 1945, la victoire, la véritable victoire contre le nazisme, enfin la liberté, eh bien, il y a eu une manifestation en Algérie, justement à Sétif, Guelma et Kerata, une manifestation pour dire eh bien nous avons participé à cette à ce combat contre le nazisme, alors il est un peu normal que nous ayons plus de liberté, voire l'indépendance de l'Algérie. Et donc il faut rappeler que dans le même contexte, il y avait aussi les drapeaux algériens étaient interdits dans toute l'Algérie. Or, ce 8 mai, justement, les drapeaux algériens ont fleuri aux côtés des drapeaux français partout en Algérie, dans plein de villes, et notamment dans la ville de Constantine. Et donc il y a cette manifestation pacifique qui va à Sétif, à la mairie de Sétif, et il y a un jeune scout, donc il y avait des scouts algériens qui s'appellent Bouzid Sahal, et ce jeune scout va brandir un drapeau algérien, qui était effectivement interdit, dans la manifestation. Il sera tué immédiatement par un gendarme, et donc à partir de ce moment-là, je dirais, il y a une émeute, évidemment, puisqu'il y a une grande émotion. Et donc la répression sera terrible, puisque il y aura les milices européennes appuyées par la gendarmerie, l'armée française, qui vont faire un terrible massacre où ils vont assassiner froidement les Algériens. Et pire que ça, ça va s'étaler, comme je le disais tout à l'heure, sur 5 mois. Il faut aussi rappeler un autre contexte important, c'est qu'il y avait quoi à l'époque ? Il y avait un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que il y avait la droite et la gauche qui gouvernaient la France à l'époque, avec un ministre, il faut rappeler son nom, Charles Tillon, ministre de l'air, qui était communiste. Il y avait des socialistes, parmi les gouverneurs d'ailleurs, était un gouverneur socialiste à l'époque là-bas. Je dirais, c'est important de rappeler ce contexte-là qui n'a rien à voir donc avec la droite et la gauche quand il s'agit de la répression du peuple algérien. Je dirais, tous les gouvernements et de toutes les sensibilités ont participé à ce massacre-là.
Après sa réélection, le président Emmanuel Macron doit-il reconnaître les massacres du 8 mai 1945 ?
Oui, absolument. Il faut que le président Macron, maintenant élu, et aussi, il faut le rappeler, avec au deuxième tour, en tout cas avec une grande partie de l'électorat des Français héritiers de l'immigration coloniale, contre justement l'extrême droite. Il faut qu'ils se rappellent que c'est quelque chose d'important de reconnaître ce crime contre l'humanité, qu'il avait d'ailleurs lui-même qualifié en ce sens lorsqu'il était candidat en 2016, lorsqu'il s'est rendu à Alger. Et malheureusement, donc, ce que nous constatons avec le président Macron, c'est qu'il fait des demi-pas, comme un peu pour le 17 octobre 1961. Il s'est rendu sur le pont de Beson, c'était très important. C'est la première fois qu'un président de la République fait ça, c'est-à-dire se recueillir auprès des victimes. Mais il aurait fallu, ou il faudrait encore, parce que c'est jamais trop tard maintenant qu'il est réélu, il a encore 5 ans devant lui pour reconnaître le crime d'État du 17 octobre 61. Et en tout cas, nous, les Français héritiers de l'immigration coloniale, nous n'avons pas l'intention de baisser les bras dans ce combat mémoriel pour la reconnaissance de ces crimes. Au fond, reconnaître ce crime, eh ben, c'est reconnaître justement la contribution de ces Algériens qui ont été combattre et libérer la France du joug nazisme. Donc c'est pour ça que nous, on continue, l'association Les Oranges sera présente au Centre culturel algérien le 11 mai. Il y a quelque chose aussi d'important qui me fait beaucoup plaisir maintenant, puisque les choses ne se font pas uniquement sur Paris, mais par exemple l'association Les Oranges est invitée à l'occasion du 8 mai, à Lyon et dans sa périphérie, par des collectifs qui nous ont demandé de venir et de témoigner. Eh bien, nous allons y aller et mettre toute notre énergie pour faire de la pédagogie, expliquer que c'est important de connaître l'histoire de France et l'histoire de l'Algérie, et que c'est dans ce contexte que nous verrons un horizon, je dirais, favorable aux relations entre les deux pays, et puis que tout le monde puisse vivre enfin, parce que pour tourner une page, encore faut-il l'écrire.
Le président de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, il répondait à Loïc Barrière. Les élections législatives au Liban, le scrutin se déroulera le 15 mai dans le pays. Il aura lieu ce dimanche 8 mai pour les Libanais qui résident en France. Gros plan après le flash de 15h sur les modalités de ces élections avec l'ambassadeur du Liban en France. Rami Adouane sera l'invité de Rencontre à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 15h03 pour votre émission Rencontre, puis à 17h30 pour votre journal en langue française. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.